Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Les évêques de France réunis en assemblée plénière dans un contexte national difficile, alors que les réformes sociétales suscitent des questionnements et des fermetures, ils ne veulent être ni une église forteresse, ni une église caméléon, mais une église sacrement. Vous entendrez le porte-parole de la conférence épiscopale. Le pape François lavera les pieds à des personnes handicapées et âgées le jeudi saint. Il célébrera la messe de la scène du Seigneur dans une maison d'accueil située dans la banlieue nord-ouest de Rome. Les évêques indonésiens exhorte les catholiques à se rendre aux urnes ce mercredi à l'occasion d'un scrutin législatif crucial. Les élus peuvent changer l'avenir de la nation et améliorer la situation sociale et économique de la population. Il est donc essentiel, selon les évêques, de voter pour des candidats honnêtes, rigoureux et soucieux du bien commun. Lourdes, ce mardi, Mgr Georges Pontier a mis en garde les évêques de France contre le risque de se laisser instrumentaliser ou d'instrumentaliser les autres lorsqu'ils sont sollicités ou même requis pour donner caution à des initiatives de tous ordres. Le président de la conférence des évêques a prononcé le discours d'ouverture de l'assemblée plénière de printemps qui se poursuivra jusqu'au 11 avril. L'archevêque de Marseille a appelé ses confrères au discernement évangélique, à l'échange, à la mesure et à la communion. Antonino Gallofaro.
C'est un discours apaisant que le président de la conférence a voulu adresser à ses confrères, sans éluder pour autant les débats qui agitent la communauté catholique en France. Des souffrances et des questionnements profonds qui déstabilisent et divisent, notamment au sujet des questions de société, fin de vie, mariage, partage des biens, accueil des étrangers. Mgr Pontier a pris ses distances avec la tentation du rapport de force. Il a mis en garde contre une utilisation irresponsable des réseaux sociaux. Il s'est interrogé sur la juste manière de vivre en chrétien dans cette société. L'avenir ne peut être dans la promotion des comportements eugéniques, ni dans la perpétuation d'un ordre économique qui exclut trop de membres de nos sociétés. Pour l'archevêque de Marseille, le taux d'abstention aux récentes municipales reflète la lassitude, le désarroi, la peur de l'avenir d'un très grand nombre de Français, sans oublier la perte de crédibilité de la classe politique fragilisée par la complexité des défis à relever et par des comportements individuels décevants et irresponsables. Il y a aussi des gens, a-t-il martelé, qui sont en attente des biens essentiels, logement, travail, éducation, santé, statut légal, bien plus que des changements sociétaux qu'on a voulu imposer au risque de diviser la société. Quant aux prochaines élections européennes, il invite à ne pas se replier sur des intérêts ou des recherches identitaires strictement nationales.
Les évêques français se réunissent dans un climat difficile. Un certain nombre de catholiques, déstabilisés par les évolutions sociétales et notamment par la légalisation du mariage homosexuel, reprochent à l'épiscopat son manque de visibilité et de clarté sur la scène publique. Mais pour le président du Conseil Famille et Société, Mgr Jean-Luc Brunin, les tensions sociales qui ont touché le monde catholique reflètent celles de la société française dans son ensemble. Il considère que l'Église, tout en défendant fermement ses convictions sur la famille, ne peut pas les imposer sur la scène politique.
Le trouble actuel et les déséquilibres, les clivages, ils sont d'abord dans la société. Je crois qu'il faut prendre la mesure que les décisions législatives qui ont été prises autour du mariage et puis de l'adoption par les personnes homosexuelles ont profondément clivé la société française et donc par voie de conséquence ont aussi clivé la communauté catholique. Je pense que les choses ont été trop rapides, trop brutales et pas suffisamment débattues au sein de la société. Donc l'Église aujourd'hui subit les contre-coups de cette déstabilisation et de cette perte de cohésion sociale. La difficulté, c'est que de par les décisions des pouvoirs publics, on a amené la question du mariage et de la famille sur le terrain politique. Et donc, des chrétiens se laissent entraîner sur une posture politique qui, je crois, est contre-productive par rapport à une ambiance qui serait plus favorable à l'évangélisation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il me semble que d'un point de vue positif, il y a un intérêt renouvelé pour ce que l'Église porte à propos du mariage et de la famille. Et apparemment, ce n'est pas qu'en France, c'est plus général. Et la décision du Saint-Père de convoquer un synode sur la famille montre que cette question est une question importante pour l'Église universelle.
Et donc cette situation française, elle n'est pas particulièrement exceptionnelle en Europe. Vous sentez chez vos confrères évêques d'autres pays qu'ils partagent les mêmes préoccupations que les évêques de France?
Il y a 15 jours, nous avions une rencontre à l'initiative de la CCE à Rome avec le cardinal Baldisseri, qui est le secrétaire général du synode, entre évêques européens. Et je me suis aperçu que dans d'autres pays européens, eh bien, nous sommes confrontés aux mêmes questions.
Et comment vous vous positionnez par rapport à un certain nombre de catholiques qui reprochent à l'épiscopat sa trop grande discrétion dans les débats de société ?
Je comprends profondément les inquiétudes qui sont fondées. Les gens qui voient aujourd'hui qu'il y a une dénaturation du mariage, une fragilisation de la famille, et qui donc ne veulent pas baisser les bras, et c'est tout à fait légitime. Et je crois que les chrétiens, c'est tout à leur honneur de pouvoir continuer à manifester qu'ils croient au mariage tel que l'Église le préconise, qu'ils croient à la famille telle que notamment le pape Jean-Paul II, qu'on appelle le pape de la famille, a développé dans Familiaris Consortio. Et donc on va chercher comment on peut promouvoir ce modèle du mariage et de la famille dans la société, et on peut prendre exemple sur ce qui se fait dans d'autres pays. C'est ça l'avantage de l'Église, qui a une dimension universelle. Le problème, c'est qu'il faudrait éviter de réduire les questions du mariage et de la famille à leur seule dimension politique. Il y a certainement un combat politique à mener. Ce n'est pas l'institution Église qui a à le mener. En ce sens-là, le pape Benoît XVI disait dans Deus Caritas Est au numéro 28, l'Église ne peut ni ne doit prendre en main la bataille politique pour édifier une société juste. Elle doit s'insérer en elle par la voie de l'argumentation rationnelle et réveiller les forces spirituelles. Alors qu'on aille voir comment d'autres chrétiens, dans d'autres lieux, essaye de promouvoir le mariage et la famille tel que l'Église l'a défini. Je crois que c'est légitime et il faut continuer. C'est bien la perspective du synode, c'est d'annoncer la famille comme une bonne nouvelle dans une perspective d'évangélisation.
Monseigneur Jean-Luc Brunin, président du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France, interrogé par Cyprien Viette. Outre les élections de divers présidents, l'Assemblée plénière qui vient de s'ouvrir à Lourdes entendra des propositions de nouvelles orientations pour la communication. Le groupe de travail sur le phénomène social de l'avortement poursuivra son activité, tandis que le groupe Préparation au mariage dans le contexte de la nouvelle évangélisation achèvera sa recherche. La réflexion entamée en novembre dernier concernant la formation des séminaristes se poursuivra. Les évêques partageront également sur la synthèse nationale préparatoire au synode sur la famille. Enfin, ils ne seront pas sourds à la crise économique, sociale et morale, car elle est profonde, nous confie Mgr Bernard Potvin, porte-parole de la conférence.
Je crois que les évêques venant à Lourdes vivent cette communion profonde à la population qui aujourd'hui est en désarroi. Et donc eux-mêmes, dans le partage d'actualités, dans les thèmes qu'ils travaillent durant cette assemblée, ne peuvent pas ne pas penser à toute cette recherche et cette crise profonde. On sent bien qu'il y a aujourd'hui un élan qui est cherché. Beaucoup de nos contemporains sont en recherche d'un horizon, d'un souffle nouveau, que d'ailleurs le pape François justement permet vraiment de retrouver à travers toute sa popularité et toute la confiance qu'il impulse. Le discours de Mgr Pontier est bien là pour illustrer l'état d'esprit dans lequel les évêques commencent leur travail.
Alors justement, Mgr Pontier évoque une société qui a parfois peur de l'avenir. Quelles sont les pistes que vous souhaitez dresser pour retrouver la confiance ?
Mais d'abord, ce qui est fondamental, c'est que ceux qui ont des responsabilités dans la société veuillent bien s'arrêter un peu et écouter les mouvements d'opinion qui sont en train de se dessiner. Mgr Pontier, à juste titre, dans son document, dans son discours, vient de parler, par exemple, de ces élections municipales. Que révèlent-elles ? Que disent-elles aujourd'hui ? D'une crise de confiance, d'une crise de la proximité. Comment réhabiliter cette confiance ? Comment réhabiliter la responsabilité sur le plan politique ? Comment éviter de cliver encore davantage la société ? Il faut vraiment éviter de la cliver davantage. Elle l'est aujourd'hui terriblement de par les réformes sociétales. Ça a été dit clairement dans ce discours. Les inquiétudes qui sont à l'horizon sont celles du respect de la vie, du respect de l'autre, de, par exemple, de la question de la fin de vie. Elle a aussi été évoquée dans le discours. Comment tout cela va se vivre dans les semaines qui viennent? On sent quand même que là, il y a des attentes considérables de la part, de la population et légitimement de la part des communautés chrétiennes. Alors, la communauté chrétienne, elle a un rôle à jouer. Les catholiques ont un rôle à la fois de dialogue avec la société, de débat entre eux aussi, parce que tout n'est pas non plus limpide entre eux-mêmes. Hein, c'est aussi à regarder à leur niveau. Et je crois que ce signe qui est à donner de la part de l'Église catholique, c'est un signe de confiance et aussi un signe de volonté de s'asseoir et d'aller, par exemple, vers les élections européennes en sauvant l'essentiel. Parce que sauver l'essentiel, c'est, par exemple, concernant l'Europe, à la fois faire preuve de grande lucidité sur cette Europe, sur ses failles, ses défauts, ses insuffisances, mais aussi de voir comment sauver une Europe de valeur, une Europe capable de traduire l'essentiel, une Europe capable de nous entraîner beaucoup plus loin dans le respect de tous. Donc là, il y a énormément de chantiers en perspective.
Ces derniers mois ont souvent révélé parfois des lignes de fracture au sein des catholiques français. On l'a vu autour des questions liées au mariage pour tous. Plus récemment, il y a eu l'affaire de l'annulation de cette conférence à Tours. Il y a eu une délégation qui est partie en Russie, etc. On a beaucoup parlé dans les médias de ces tensions, qui existent au sein des catholiques français et qui peuvent se ressentir même au sein de l'épiscopat. Comment vous allez aborder ces questions-là?
Dès l'instant où il y a des tensions dans la société, il n'est pas surprenant qu'il y ait des tensions dans la communauté des catholiques. Ce serait d'ailleurs surprenant que ces tensions de société ne viennent pas aussi marquer les tensions auxquelles vous faites allusion. Donc ce serait être langue de bois, ce serait totalement être dans l'irréalité que d'ignorer que les catholiques eux-mêmes sont différents, peuvent avoir des vues différentes. Alors tout le travail épiscopal ici à Lourdes, c'est d'aller vers cet essentiel, c'est de cultiver cette juste estime entre catholiques. Comment, tout en ayant des points de vue différents, on peut retrouver une juste estime mutuelle, qu'il y ait des différences sur les méthodes, qu'il y ait des différences sur des options de manifestation ou pas, mais il y a bien une anthropologie commune. Et ici à Lourdes, il y a un épiscopat qui est capable de débattre et en même temps, il est uni sur l'essentiel.
Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France, joint à Lourdes par Olivier Bonnel. J'ajoute que dans son long discours d'ouverture, le président de la Conférence des évêques de France a par ailleurs évoqué des dossiers étrangers. Il a ainsi jugé sévèrement l'inertie de la communauté internationale, évoquant le chemin de croix sans fin des chrétiens de Syrie, du Moyen-Orient, de Centrafrique, du Mali, d'Irak, d'Ukraine. Combien de temps encore, s'est-il interrogé, auront-ils le sentiment que le reste du monde demeure indifférent à leur sort? L'impuissance de la communauté internationale met à jour les égoïsmes d'une humanité qui oublie les exigences de la justice, du droit et de la solidarité. Le suspense s'est levé, on sait enfin où le pape François célébrera cette année la messe in cena Domini dans la soirée du Jeudi Saint. Le Saint-Père a choisi un dispensaire qui offre des soins qualifiés aux populations défavorisées, en particulier aux personnes âgées et aux handicapés. Il se rendra à la fondation Don Gnocchi, située dans une banlieue romaine, un centre de réhabilitation neuromotrice. Olivier Bonnel.
Don Carlo Gnocchi est une figure très populaire en Italie. Ce prêtre milanais, né en 1902 et mort en 1956, fut aumônier militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Choqué par la violence, sa mission, dit-il, est de reconstruire. Dans une Milan qui renaît de ses cendres, Don Gnocchi travaille à restaurer la personne humaine en recueillant les enfants orphelins et les mutilés et en leur offrant assistance et formation. Il crée la Fondation pour l'enfance mutilée qui s'élargit ensuite aux jeunes, une fondation qui, au tournant des années 80, s'élargit encore aux personnes en fin de vie, parfois laissées à l'abandon. Un an après une prison, c'est donc un nouveau lieu symbolique que le pape François a choisi pour célébrer la scène du Seigneur, un centre de réhabilitation neuromoteur et d'accueil de personnes âgées en difficulté, une nouvelle périphérie de la souffrance humaine, incarnée par la Fondation Gnocchi. La Fondation gère aujourd'hui une trentaine de centres dans toute l'Italie, faisant travailler près de 6000 personnes. Les pontifes successifs ont toujours été très proches de la figure du fondateur. Lors de sa béatification en 2009, Benoît XVI rappela l'exemple de celui qui, à sa mort, offrit ses cornées à deux garçons aveugles.
et encore un nouveau geste en faveur de la collégialité dans l'Église. Le pape François a décidé de valoriser le synode des évêques qu'il considère comme un héritage précieux du Concile et de le rendre plus performant. Pour mieux marquer l'importance qu'il accorde à cette institution créée par Paul VI en 1965, il a élevé à la dignité épiscopale le nouveau sous-secrétaire de cet organisme, Mgr Fabio Fabene, nommé à ce poste en février dernier. Dans une lettre au secrétaire général du synode, Mgr Baldisseri, le Saint-Père rappelle que le synode a été institué pour renforcer les liens entre l'évêque de Rome et les évêques du monde entier. Depuis, les assemblées synodales ont permis à de nombreux évêques venus de tous les continents d'offrir aux successeurs de Pierre la contribution de leur expérience. Jean-Paul II, qui reconnaissait l'importance de ces assises, affirmait avec clairvoyance en 1983 que cet outil pouvait être amélioré pour favoriser la co-responsabilité pastorale. À son tour donc, le pape François demande que soient trouvées des formes toujours plus profondes et authentiques de l'exercice de la collégialité synodale, car l'évêque de Rome, insiste-t-il, a besoin des conseils de ses confrères. Le successeur de Pierre doit certes proclamer à tous qui est le Christ, fils du Dieu vivant, mais il doit aussi être à l'écoute de tous les membres du collège apostolique. La violence ne faiblit pas au Venezuela. Les étudiants qui manifestent contre la situation économique du pays font l'objet d'une répression sévère. La conférence épiscopale vénézuélienne dénonce la criminalisation de la contestation et accuse sans ambages le gouvernement Maduro de vouloir imposer un régime autoritaire. Un constat que partage le père Georges Engel, prêtre Fidei Donum, curé de la paroisse La Asunción de Nuestra Señora à Caracas.
Moi, ce qui me paraît important, c'est que la conférence épiscopale demande gouvernement de désarmer les groupes civils armés, ce qu'on appelle ici les collectivos. La même chose vient d'être prononcée par le provincial des jésuites de Venezuela hier.
Il y a quelques semaines encore, pourtant, les deux parties étaient tombées d'accord sur le principe d'un dialogue national, un dialogue sincère. Vous y croyez encore ?
Je n'y crois pas parce que la violence a atteint un tel point que la solution ne... Bien sûr, elle se trouve dans un dialogue entre les deux parties, mais encore que faut-il qu'il y ait une volonté des deux parties d'aboutir à un accord. Il ne manque pas d'éléments dans la Constitution pour régler ce type de problème, non ? Par exemple, la renonce del président de la République ou un référendum.
Quel est l'état d'esprit des Vénézuéliens aujourd'hui ?
Les gens sont un petit peu déprimés actuellement. Hein. Je vois dans ma paroisse, mais surtout, vous savez, ce qui me paraît très grave, actuellement, c'est que je vois dans la paroisse aujourd'hui, ceux qui étaient hier des adversaires politiques ont tendance à devenir aujourd'hui, par les paroles, par les actes, etc., des ennemis. Et ça, c'est terrible. Hein. C'est terrible.
Le père Georges Engel, curé de paroisse à Caracas, interrogé par Manuela à Fiji. En Indonésie, les évêques ont appelé leurs fidèles à voter en tenant compte des valeurs éthiques et morales alors que des élections législatives cruciales sont organisées ce mercredi. Ce scrutin intervient à 3 mois d'une élection présidentielle qui pourrait sonner la fin d'une ère et consacrer l'ascension politique du gouverneur de Jakarta, le héros des laissés pour compte et des travailleurs modestes face aux élites corrompues. Dans une lettre pastorale, les évêques plaident en faveur d'un choix responsable et intelligent qui respecte le pluralisme reconnu par la Constitution. Dans ce pays où l'on assiste à la montée des intolérances religieuses et où les minorités sont de plus en plus souvent victimes de violences et d'abus. Les évêques redoutent l'abstentionnisme et la dispersion des voix des catholiques. L'épiscopat a donc voulu s'adresser à toutes les communautés catholiques minoritaires et éparpillées dans cet archipel géant, premier pays musulman au monde par sa population. L'épiscopat veut les inciter à faire valoir leurs droits civils et à résister à la morosité qui a gagné la population en raison de la corruption endémique, des affaires et de l'impunité qui règne en maître au sein des institutions. Après 16 ans de bataille légale, la Cour suprême des Philippines a confirmé la validité globale de la loi sur la santé reproductive qui introduit des méthodes de planning familial telles que la contraception au sein de l'assistance sanitaire publique, une loi fortement contestée par l'Église catholique. La Cour a cependant admis le droit à l'objection de conscience de la part des médecins ou des structures sanitaires privées. Elle déclare ainsi inconstitutionnelles les peines et sanctions prévues pour les médecins qui refusent de fournir des informations ou des services liés aux méthodes artificielles de planification familiale telles que la contraception, la stérilisation et les moyens abortifs. Emmenés par le secrétaire de la Commission épiscopale pour la vie et la famille, des milliers de fidèles catholiques ont participé à une veillée de prière. L'Église respectera la décision de la Cour, mais ne violera pas les enseignements de l'Évangile et continuera à défendre la vie et la famille. Et puis, je vous rappelle que le Vatican accueillera mercredi et jeudi la deuxième conférence internationale contre les trafics d'êtres humains, placée sous le patronage des évêques catholiques d'Angleterre et du Pays de Galles. Cette conférence s'efforcera de trouver les moyens de développer des partenariats entre l'Église catholique et les forces de l'ordre. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.